Bienvenue à tous dans notre édition spéciale du 15 août. On ouvre avec la grande déception qu'inspire la composition du nouveau gouvernement. Félix Tshisekedi, au lieu de rassurer une opinion publique déjà échaudée par les scandales et les promesses non tenues, semble avoir opté pour un casting qui soulève plus de doutes que d'espoir. Entre figures recyclées issues des vieilles combines politiques, nominations entachées de controverses et alliances de circonstances, l'impression qui domine est celle d'un jeu de chaises musicales où l'intérêt général reste spectateur.
La nomination de Mme Coutinho révèle toute la fragilité des critères de sélection au sein du gouvernement congolais. Le doute sur ses diplômes affaiblit d'emblée sa légitimité. Tandis que son appel à la prière peut être perçu comme une esquive des questions de fond, à l'heure où la jeunesse attend des mesures concrètes.
Ironie du sort, pour une ministre censée inspirer la jeunesse, la première leçon semble être qu'avec un bon carnet d'adresses, même les nuages les plus sombres peuvent trouver un rayon de soleil ministériel.
À côté, Adolphe Musito, ancien Premier ministre soupçonné d'enrichissement illicite et longtemps écarté du pouvoir, a réussi à se frayer un chemin jusqu'au ministère du budget. Sa promesse ? Doubler le budget national. Mais sur le terrain, les Congolais savent que ce budget pèse encore trop peu sur leur quotidien, leur poche ou les investissements publics.
Le scepticisme est nourri par l'expérience passée. Les promesses budgétaires n'ont que peu d'impact sur la vie quotidienne. Selon la Banque mondiale, moins de 12% des dépenses publiques bénéficient directement aux citoyens. Sans réforme structurelle, ces annonces risquent de n'être que des effets d'annonce. Le climat politique est d'autant plus électrique que Constant Mutamba, ex-ministre de la Justice, attend le verdict de son procès pour le détournement présumé de 19 millions de dollars.
Le cas Mutamba est emblématique. D'un côté, il symbolise un effort affiché de moralisation de la vie politique. De l'autre, il suscite des soupçons de règlement de compte. En RDC, la frontière entre justice et politique est souvent poreuse, ce qui complique la lisibilité des sanctions et leur portée réelle.
Le verdict attendu le 27 août aura-t-il un impact sur la perception du gouvernement actuel ?
Il jouera un rôle déterminant. Une condamnation forte pourrait redorer l'image du gouvernement auprès d'une population lassée des scandales. À l'inverse, une relaxe renforcerait le sentiment d'impunité et d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques.
Fin juin, à Washington, Kinshasa et Kigali avaient signé un accord de paix historique présenté comme un tournant dans les relations glaciales entre la RDC et le Rwanda. Moins d'un mois plus tard, le 19 juillet, c'est à Doha, au Qatar, que le gouvernement congolais et le Mving III signaient une déclaration de principe incluant un cessez-le-feu permanent.
Mais à peine l'encre de ces engagements avait-elle séché que les combats reprenaient. Violent, intense, il rappelle que dans cette région meurtrie, la paix se négocie souvent en salle de conférence, mais se défait sur le terrain. Les populations civiles, elles, continuent de fuir, prises au piège entre promesses diplomatiques et réalité des armes.
Les civils continuent de fuir par milliers, emportant avec eux ce qu'ils peuvent sauver. Difficile de ne pas établir un parallèle avec d'autres conflits africains où la diplomatie, pourtant médiatisée et encadrée, s'effondre face à la réalité brutale des armes. Ici, l'inquiétude est d'autant plus grande que le Mving 3AFC semble concentrer ses attaques sur la communauté hutue congolaise, alimentant les tensions ethniques et la peur d'un cycle de violences ciblées.
On constate des dynamiques similaires au Soudan du Sud ou en Centrafrique. Les négociations produisent des textes, mais sur le terrain, l'insécurité persiste lorsque les groupes armés n'y trouvent pas leur compte ou que les promesses internationales tardent à se concrétiser.
Et puis, Washington hausse le ton. Les États-Unis viennent de frapper 4 entités impliquées dans l'exploitation illégale de minerais à Rubaya, l'un des bassins miniers les plus riches en cobalt, coltan et autres minéraux stratégiques indispensables aux batteries, aux technologies vertes et aux armées modernes.
Officiellement, l'objectif est clair. Couper les vivres aux groupes armés qui financent leurs activités par le travail forcé et la violence et qui maintiennent l'est du Congo dans un état d'insécurité chronique. Dans le viseur, des sociétés congolaises et chinoises accusées de collaborer directement avec ces milices.
Mais derrière le discours officiel, une question se pose. S'agit-il vraiment de protéger les populations congolaises ou plutôt de protéger l'accès des Américains et de certains amis de Donald Trump à ces ressources stratégiques? Car ces sanctions interviennent alors que les négociations autour d'un accord minerais contre sécurité entre Kinshasa et Washington avancent dans la plus grande opacité.
Plus de 50 élus démocrates au Congrès américain dénoncent des discussions secrètes et un manque de consultation, craignant des conflits d'intérêts et un accord taillé sur mesure pour favoriser les entreprises proches du pouvoir américain. La crainte, c'est la signature d'accords déséquilibrés où les intérêts des grandes entreprises américaines priment. Cela pourrait accentuer la dépendance congolaise et limiter les retombées positives pour les populations locales déjà marginalisées dans la chaîne de valeur.
Beaucoup de Congolais voient ces sanctions comme une nouvelle forme d'ingérence où la lutte contre l'insécurité sert aussi de prétexte à la mainmise sur les minerais stratégiques. Le défi reste d'assurer une exploitation éthique et équitable. Cap maintenant sur le Mali, où un événement marquant suscite fierté et débat, le retour progressif des manuscrits de Tombouctou après plus de 10 ans d'exil. Quel est l'enjeu de ce retour au-delà de la dimension patrimoniale ?
C'est un acte patrimonial majeur, mais aussi une déclaration politique. Ces manuscrits, qui couvrent la science, la philosophie ou le commerce, incarne l'identité culturelle malienne et rappelle la richesse du savoir africain longtemps occulté.
L'implication de l'UNESCO, de bailleurs occidentaux et de fondations privées a créé un réseau de protection mais aussi de négociations. Chaque caisse déplacée a fait l'objet de discussions feutrées révélant les enjeux géopolitiques autour de ce patrimoine.
Aujourd'hui, Bamako affiche sa volonté de reprendre la main, de montrer que ces trésors font partie intégrante de la souveraineté culturelle nationale dans un contexte où le pays cherche à s'émanciper de certaines influences étrangères.
Le défi principal reste la sécurité et la conservation sur place. Il faut former des restaurateurs locaux, moderniser les infrastructures et trouver un équilibre entre ouverture internationale et préservation de l'autonomie malienne. Aux États-Unis, Donald Trump hausse le ton face à Vladimir Poutine. Dans un avertissement à demi-mot, il promet de sévères conséquences si Moscou refuse de s'engager sur un cessez-le-feu en Ukraine. Plusieurs leviers sont sur la table. Le renforcement des sanctions économiques, restrictions sur les exportations d'énergie ou mesures diplomatiques discrètes. Cependant, Trump reste volontairement vague pour ménager son espace de négociation et préserver un effet de surprise.
Certains observateurs évoquent un marchandage stratégique où sanctions et sécurité européennes seraient monnayées contre des engagements russes. Ce scénario est-il plausible ? C'est une hypothèse crédible. Depuis la guerre froide, les grandes puissances ont souvent échangé des concessions en coulisses. Mais cette approche suscite l'inquiétude des alliés européens qui craignent d'être relégués au second plan dans les discussions.
Cette déclaration fait suite à une réunion virtuelle réunissant le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Trump, et plusieurs dirigeants européens. Trump a qualifié l'échange de très amical et s'est engagé à mettre personnellement la pression sur Poutine. Du côté européen, l'initiative américaine est accueillie avec prudence. Peut-on parler d'une divergence de stratégie entre alliés occidentaux ?
À Moscou, la réaction du Kremlin ne s'est pas fait attendre. Les porte-paroles russes dénoncent des menaces vides et assurent que la Russie poursuivra jusqu'au bout ses objectifs militaires. Dans ce bras de fer verbal, chaque phrase compte, mais sur le terrain, ce sont toujours les armes qui dictent la réalité.
Au Proche-Orient, la crise à Gaza s'aggrave tandis que le silence des gouvernements arabes est de plus en plus critiqué par leur population. Comment expliquer ce contraste entre discours officiel et colère populaire ?
Les États arabes, soucieux de préserver leurs alliances avec Washington ou Tel Aviv, évitent toute escalade verbale. Pourtant, cette prudence diplomatique est perçue comme une trahison par de nombreux citoyens, qui réclament une solidarité active avec la Palestine. Des manifestations pro-palestiniennes sont réprimées dans certains pays.
La répression alimente le ressentiment et peut fragiliser les régimes, surtout si la contestation dépasse la cause palestinienne pour s'attaquer à l'autorité en place. Cela crée un climat de tension latent, difficile à maîtriser à terme. On observe des démarches diplomatiques discrètes comme le Qatar qui joue l'intermédiaire ou l'Arabie Saoudite qui discute reconstruction.
Ces démarches se font sans caméra, sans discours enflammé. Un choix assumé par ces dirigeants qui veulent éviter l'escalade verbale tout en conservant une marge de manœuvre diplomatique. Reste que, pour l'opinion publique arabe, ce travail discret ne compense pas l'absence de position forte et visible. À Gaza, où chaque jour compte, cette diplomatie souterraine est loin de calmer la soif de solidarité et d'action concrète.
En Asie, la Chine continue de tisser sa toile dans l'espace. Pékin vient de lancer, depuis le centre spatial de Wenchang sur l'île de Hainan, la 8e série de satellites pour son méga projet d'internet spatial baptisé Guowang. L'objectif est de mettre en orbite plus de 13 000 satellites à basse altitude afin de créer un réseau haut débit couvrant la planète entière.
Guowang vise à offrir une connexion haut débit mondial, en particulier dans les zones rurales, mais c'est aussi un outil d'influence géopolitique. À la différence de Starlink, ce réseau est étatique, donc soumis aux règles de censure et de contrôle chinois. Certains analystes craignent que ce projet servent à exporter le modèle chinois d'Internet contrôlé.
Les accords numériques avec certains pays africains et asiatiques prévoient déjà la fourniture d'infrastructures sous conditions, incluant souvent des clauses de surveillance ou de filtrage du contenu. Cela renforce l'influence de Pékin sur les flux d'informations.
Dans ce contexte de rivalité spatiale, on assiste à une fragmentation accrue du cyberespace, où chaque puissance cherche à imposer ses standards. À terme, cela pourrait remettre en cause l'universalité d'Internet et accentuer la compétition sur le contrôle des infrastructures numériques.
On termine avec un tour sur les terrains et d'abord en Afrique. À Nairobi, la fièvre monte, les billets pour le choc Maroc-RDC, dernier match du groupe A, se sont arrachés en un temps record. Guichet fermé, tribune promise à être pleine à craquer. L'enjeu est énorme, une place en phase finale et une rivalité sportive qui attire les foules des deux côtés. Les supporters congolais affluent de tout le pays et même de la diaspora pour pousser les léopards vers la victoire.
En Europe, c'est un scénario digne d'un film qui s'est joué en Supercoupe de l'UEFA. Le Paris Saint-Germain affrontait Tottenham, récent vainqueur de la Ligue Europa. Autant dire que la coupe semblait leur tendre les bras. Mais le PSG, fidèle à sa réputation de club imprévisible, a trouvé les ressources pour revenir. Deux buts coup sur coup, prolongation haletante et une séance de tirs au but qui a tenu les spectateurs en apnée. C'est Nuno Mendes qui a inscrit le penalty décisif, offrant à Paris une victoire inespérée. Luis Enrique, l'entraîneur parisien, a pourtant reconnu que son équipe ne méritait pas forcément de gagner, mais dans le football, la beauté est parfois dans le chaos.
Sur le plan du basket, l'équipe masculine de la RDC s'est inclinée face au Cap-Vert lors du dernier match des qualifications. Une défaite amère qui met un doute sur la capacité des Léopards à rivaliser avec les grandes nations africaines du basket.
Cette défaite souligne les défis structurels du basket congolais, notamment en matière de préparation et d'encadrement. C'est l'occasion de revoir les stratégies de formation et de soutien, car le potentiel existe, mais doit être mieux exploité pour rivaliser avec les grandes nations africaines.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous, on se retrouve demain pour un nouveau tour d'horizon et peut-être, qui sait, de nouvelles secousses politiques à Kinshasa.